Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique culturelle où on parlera aujourd'hui de cirque. Daniel Gulko est un artiste américain qui a roulé sa bosse dans le monde en passant par le Québec avant d'atterrir il y a 13 ans à Marseille où il a jeté l'ancre. Ce n'est peut-être pas tout à fait un hasard pour ce nomade d'avoir élu domicile dans cette ville portuaire de migrants et de mouvements. C'est là qu'il a fondé sa compagnie Quinca, un nom qui évoque bien le destin parfois incertain des troupes de cirque. Un destin que d'aucuns qualifieraient de précaire, mais qui ne peut que laisser rêveur, voire envieux, de la liberté totale qu'il octroie. Ce n'est de loin pas la première fois que Daniel Gulko et sa troupe passent par Prague. Pour Daniel Gulko, tout a commencé en 1990, où il a rencontré Jiří Turek, le futur directeur du festival du nouveau cirque Letní Letna, ainsi que Ctibor Turba, le grand mime et clown tchèque. Cette année, Quinca revient avec son tout nouveau spectacle, Rêve, R-E-V, dont Daniel Gulko nous parle plus en détail.
Ad mortem festinamus peccare resistamus. Ad mortem festinamus peccare resistamus. Ad mortem festinamus peccare resistamus. Peccare resistamus. Scribi libro modo ide contem tu mundanum. Ut de
C'est une sorte de nom de code pour les Français, parce que c'est les premières trois lettres du mot rêve, rêver, songer, et c'est aussi les premières trois mots de révolution. Mais on a décidé de pas trop parler de révolution, parce qu'il y a la révolution française, c'est là, et tu peux pas parler de la révolution en France sans parler de la révolution française, mais nous c'est plus la révolution métaphorique, cette idée d'orbite que les planètes tournent autour d'un centre, et nous, on tourne autour d'un centre de gravité, et c'est le questionnement, quel est notre centre de gravité? Qu'est-ce qui nous fait tenir debout dans ce monde? Donc c'est une sorte de question philosophique qui n'est pas très intéressante pour le public, mais qui nous a poussé à voir des êtres dans des situations très difficiles, très terribles, et qui gardent l'amour, qui gardent la beauté, qui gardent l'espoir, qui gardent l'humour. Donc c'est un regard assez critique sur le monde, mais avec un sens d'humour.
Je vais revenir donc sur cette idée de rêve et pas forcément de révolution pour le coup. Voilà, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu en quoi ce rêve s'articule au spectacle. Est-ce que c'est, je sais pas, une parabole de la vie, comme la vie est un songe de Calderon par exemple?
Au début, c'était pas un thème genre parlons du rêve. C'était une procédé et on s'est dit on va écrire des carnets de rêve. Tout le monde dans le projet, les artistes, les techniciens, les gens dans le théâtre qui nous accueillaient, les habitants, en fait, c'était avant le spectacle, donc ils ne s'avaient pas vu encore. Les carnets de rêves, on va mettre un petit papier à côté du lit et chaque matin on va écrire, on va voir qu'est-ce qu'il y a.
Ah, donc c'est très concret, c'est-à-dire que chaque matin on devait écrire ses propres rêves dans le carnet.
Oui, enfin la technique c'est que chaque matin au réveil on écrit. Et si on ne se souvient pas du rêve, on écrit qui passe par la tête, l'écriture automatique. Ce qui passe par la tête, et cette idée qu'il y a toujours une trace au réveil, même si on pense qu'on ne se souvient pas, il y a toujours une trace, une couleur, une émotion. Voilà, donc tout le monde à la radio, vous pouvez essayer demain matin de dire j'écris pendant 5 minutes, 10 minutes si vous êtes courageux. Et si on fait ça, moi je ne me souviens jamais de mes rêves si je ne fais pas ça. Il y a tout un monde intérieur qui est assez avant-garde. La blague pour moi, c'est que n'importe qui, pas du tout artiste, qui aime pas trop l'art contemporain, parce qu'il comprend pas. Tous les soirs, cette personne, dans ses rêves, il fait des films complètement avant-gardistes. Tous, nous, tous. Donc c'est cette histoire de voilà, cette relation avec l'autre monde qui fait un tiers de notre vie. Le monde du sommeil, les rêves, c'est ce monde où tout est possible, tout peut changer. Et qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là? Voilà. Donc on est parti des carnets, on a commencé à mettre les rêves au plateau, et c'est comme, on rentre dans les rêves des personnes du spectacle.
L'équipe, c'est combien de personnes en tout à peu près? La troupe qui fait ce spectacle?
Ben nous, justement, on est un cirque, je dirais un cirque d'avant-garde, on peut dire ça, mais populaire. C'est ce qui est beau, quoi. C'est qu'on peut voir de l'art contemporain qui est fait pour les gens, pour le peuple. Et on est un cirque bâtard. On aime bien cette
idée. Pourquoi bâtard?
Parce que les bâtards, les chiens bâtards, voilà, ils sont souvent plus intelligents. Ils vivent souvent plus longtemps. Ils sont souvent beaucoup plus robustes que des chiens purs. Et pour nous, on a cette idée que...
Parce qu'ils sont mélangés.
Parce qu'il y a la diversité. Parce qu'il y a tout dedans. Donc on a cette idée de ne pas être dans le pédigré, dans la pureté, dans la forme pure, et d'être dans une chose où on accueille toutes les possibilités. Il y a des danseurs, des acteurs, des musiciens, des chanteuses, des acrobates, bien sûr. Il y a des gens qui viennent complètement de mondes autres, la biologie, d'autres choses.
C'est un petit monde à part, finalement.
Mettons, c'est une petite utopie appliquée, je dirais. Voilà, petite utopie, mais appliquée. Et dans ce spectacle, il y a 3 chanteuses, un clown, pur clown, et 4 acrobates danseurs. Et le procédé de travail qu'on a pour le plateau, c'est dans les premières semaines des répétitions, tout le monde fait tout. Tout le monde danse, tout le monde chante, tout le monde essaie de grimper sur les agrès, tout le monde parle. Et fur et à mesure, il y a une épuration quand même pour les bâtards, et on va choisir qui peut faire quoi, mais pas sur des critères... esthétique. D'ailleurs, en France, des fois, ça me fait rigoler. Moi, on va avoir une acrobate qui chante pas très bien, mais que c'est très émouvant. Ou les chanteuses qui ne bougent pas comme des ballerines, mais qu'on va les faire bouger, et c'est beau, on voit des femmes bouger. Et c'est étonnant que ces outils pointus de chant grimpent à 4 mètres sur les lits.
Tu parles de musique, de chant. Je crois savoir justement que dans le spectacle... Vous utilisez en fait de la musique médiévale, ça m'a frappé, des motets du XIIIe siècle. Alors c'est assez rare finalement, je ne veux pas dire que la musique médiévale est ignorée, mais bon, ce n'est pas forcément ce qu'on entend tout le temps. Pourquoi avoir choisi justement des motets?
Vous ne jouez pas la musique médiévale à la radio chaque matin au réveil? Non. Moi j'adore, et d'ailleurs j'adore parce que j'ai découvert à Prague la musique médiévale, entre autres, et j'adore vraiment. Et ça se donne, peut-être parce que j'adore, que j'ai fait une rencontre avec une chanteuse sur Marseille, parce que j'ai cherché quelqu'un qui travaillait la voix, plus pour un travail technique pour l'équipe, et c'est devenu un coup de foudre artistique, parce que c'est une artiste incroyable, cette dame. Et elle chante avec ce groupe, Morabo 6, et on a commencé avec le groupe faire des projets comme ça, des expériences ensemble. Et du coup, on a dit, ok, on est mûrs, on prend... 3 des chanteuses ont accepté de chanter sur Rêve. Et c'était... on ne savait pas comment aborder, parce que la musique médiévale, il n'y avait pas une raison fondateur. Voilà, on parle de rapport entre le médiéval et maintenant. Ok, c'est juste la beauté de ce chant. C'est un peu arbitraire peut-être, mais touchant, ça me touche. Et en travaillant, on a commencé à... On fait structurer, à choisir de faire un certain type de chant pour le quotidien. Et le médiéval comme un chant quand on est ailleurs. Donc c'est une musique qui hante réellement, cette façon polyphonique de l'utiliser aussi pour appuyer le sens du rêve. Et après on a rajouté des chants folk, des chants... Il y a un moment hyper rock hard, c'est génial de voir 3 chanteuses mais lyriques faire du rap. Donc il y a des chants du monde, donc il y a un mélange de styles de chants. Pour pas rester dans le médiéval, parce que c'était pas le sujet. Donc c'est assez varié. Il y a des moments où toute l'équipe chante avec eux, avec elle. Et comme je dis, il y a un petit moment où on rentre dans le... Il y a quand même un style Kanaka qui est plus rock'n'roll. Il y a un petit moment rock comme ça.
Je voulais te demander également si tu as d'autres projets. Or, évidemment, à ces festivals les tournées que tu peux faire ailleurs en France ou en Europe ou dans le monde.
Justement. On voit qu'on rentre dans un cycle un peu dur pour la culture. Il y a une crise financière, il y a une remise en question de la société. Et du coup, l'art, c'est vu un petit peu comme un luxe. Et en même temps,
normalement, c'est nécessaire quand même.
En même temps, normalement, dans une culture, c'est l'art en fait qui est le lieu de développement de la société. C'est le lieu de transformation. C'est la place où on rentre dans quelque chose de plus profond que le rendement quotidien.
Et puis donc, ça dit quelque chose aussi sur la société en question.
Ouais, et ça renouvelle le regard sur la société. C'est cette place-là où on peut repenser comment être et qu'on a besoin chacun, pas juste politiquement, mais aussi personnellement, de repenser comment être. On essaie de mettre en place K&K parce qu'on est vraiment une compagnie de recherche pour du bien ou pour du mal. Ça veut dire qu'on prend très longtemps pour créer un spectacle. On remet en question tous les codes esthétiques, le rapport au public, l'utilisation du théâtre, du cirque, de danse et de la musique. Donc c'est assez long, mais c'est cette recherche qui fait qu'on est des spécialistes de la remise en question de notre place dans la société. Et maintenant, on essaie de formaliser ça un peu, de faire un laboratoire de recherche, mais nomade, pour la création.
Donc ça prend quelle forme alors ?
Donc ça s'appelle laboratoire de création nomade. Le petit acronyme, c'est lacrimé, comme une larme, avec cette idée que chaque goutte se rajoute et crée un océan. Et l'idée, c'est qu'on construit sur trois régions, justement, le sud autour de Marseille, l'est autour de Prague et le nord autour de Stockholm. Parce que c'est aussi pour moi ces trois villes où je suis personnellement engagé, où j'ai une vie et des amis et que j'ai envie d'y être. Donc ça dépasse un peu la stratégie européenne, même si ça,
c'est même très européen. Même si c'est quand même ancré en Europe. Oui.
C'est très européen. Et l'idée, c'est de relier ces trois régions qui a chacun un rapport différent au travail de cirque, travail du théâtre visuel, théâtre extrêmement physique, comme j'aime dire. Et en même temps, dans chaque région, de relier l'université, le travail théorique avec les compagnies qui ont un travail pratique et les programmateurs qui cherchent à développer cette forme, donc de relier théorie et pratique.
Ça veut dire aussi un travail pédagogique ?
Donc ça veut dire un travail de transmission, je dirais, parce que c'est drôle, nous les artistes, on n'est pas nécessairement des pédagogues. Et même si
un universitaire dirait pédagogie, un artiste dirait transmission alors.
Mais oui, c'est cette différence que peut-être ça se passe pas par les règles académiques, même si je pense que les artistes, il faut qu'on se renforce dans un rapport théorique à notre travail, de défendre notre travail. Mais cette histoire de transmission, comment transmettre à l'autre, autant aux jeunes artistes qui veulent faire, mais autant à des citoyens, de travailler avec des handicapés, des enfants, des amateurs, et de les traiter comme égal, être humain égal. Peut-être on n'est pas égal techniquement, artistiquement, parce que j'ai une spécialisation dans l'art que je veux transmettre, mais au niveau de la recherche, on peut être face à face en tant qu'être humain, même avec un petit enfant, on peut le traiter comme un créateur à part égale. Donc c'est ce rapport-là, la recherche, de vraiment appuyer qu'est-ce que c'est créer, et de l'enlever de son carcan professionnalisation, en même temps, pour créer, laboratoire de nomades de création, de créer des spectacles. Donc l'idée, c'est de travailler dans chaque région avec les élèves, des artistes confirmés, les citoyens, sur un projet de recherche qui dure plusieurs années, pour sortir dans chaque région un spectacle sur une thématique liée des trois. Bravo, sono mortis bravo.